Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews de la saison NFL 2020. Au programme aujourd'hui, les New Orleans Saints, et qui de mieux pour en parler que leur fan numéro 1, Grégory Richard, bonjour.
Bonjour à tous.
Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut, salut.
J'aurais pas dû dire ça, on va accuser la preview d'être biaisée du coup.
C'est ça. Alors que pas du tout.
Cette preview qui vous est présentée par Brooklyn Fizz, épicerie américaine à Lyon et sur brooklynfizz.fr. Épicerie donc, mais aussi produit NFL, casquettes, ballons, Funko Pop. Il y a aussi de la NBA, de la NHL et de la MLB. Pour ceux qui aiment les sports américains, c'est brooklynfizz.fr avec deux Z. Messieurs, nous parlons donc des New Orleans Saints et j'ai encore mal mis ma page à jour et je n'ai pas leur bilan devant les yeux. C'était 12 victoires de mémoire la saison dernière. Non, 13.
Ils 13, hein.
Décidément tellement fort. Addition pendant l'intersaison de Jameis Winston, de Ty Montgomery, d'Emmanuel Sanders, d'Anthony Chiquillo, de Nigel Bradham et de Malcolm Jenkins notamment. Ils ont drafté César Ruiz sur la ligne, Zach Bone au poste de linebacker et le tight end Adam Trautman notamment. Ils ont perdu Teddy Bridgewater, Larry Warford, Patrick O'Maney, Eli Apple et Von Bell. Entre autres, 13 victoires donc ces deux dernières saisons même à New Orleans, mais des échecs en playoff qui s'accumulent, Drew Brees qui continue de courir après sa deuxième bague, Greg, il semble encore avoir amélioré l'effectif autour de lui finalement, donc ils sont parmi les favoris au titre, on peut déjà le dire.
Oui, bah de toute façon, on découvre pas que New Orleans c'est peut-être l'équipe en NFL qui est la plus win now. C'est-à-dire que ouais, ils mettent vraiment toute leur chance pour les dernières années de Drew Brees, peut-être la dernière des échos qu'on a eu il y a pas si longtemps que ça et d'un petit lapsus qu'avait lâché Sean Payton en interview. Peut-être la dernière pour justement aller chercher en effet cette bague. Sachant qu'il y a beaucoup de rookies, notamment de la belle campagne, je crois que c'était de la draft 2017, qui vont demander un renouvellement de contrat. Et du coup, bah, avec la fin de carrière de Brees, il va y avoir une petite remise à niveau. Donc là, c'est vraiment la fin d'un cycle, si je peux m'exprimer ainsi, qu'il va falloir vraiment bonifier. Et en effet, il y a eu une intersaison vraiment bien gérée. Les trois choix de draft que tu as cités, les trois principaux, c'est très intéressant. Et en effet, des choix avec des vétérans confirmés, Jenkins, Sanders... C'est déjà que l'effectif était de qualité avec notamment le meilleur bilan de la NFC deux saisons de suite, me semble-t-il. Là, je pense que les Saints sont encore très armés pour dominer au moins en saison régulière la conférence nationale.
Raphaël, c'est pas infamant pourtant pas de dire que New Orleans reste quand même le favori de cette division à l'expérience, à l'effectif, à plein de
choses. Non, c'est pas infamant. Moi, je rejoins Greg en partie. Je dirais jusqu'à pousser que c'est peut-être l'effectif le plus complet de la ligue. Quand tu le regardes sur le papier, il y a de la qualité dans toutes les escouades, il y a de la profondeur, il y a des remplaçants à certains postes quand même à un niveau correct. Je trouve que sur le papier, c'est une équipe qui a pas vraiment de points faibles, qui a des joueurs ou des escouades peut-être un peu moins solides, machin, mais quand tu la regardes, quand c'est une équipe, tu regardes, tu dis pas, ah purée, ça c'est le truc qui va les faire perdre à tous les coups, quoi. T'as quand même pas trop ce genre de réflexion. Donc non, forcément, ils sont dans les très très gros favoris de la saison, aucun doute.
Eh ben, tu l'as très bien présenté, c'est exactement ce que j'avais proposé à Grégory pour une première dans ses previews, c'est d'inverser, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer par les forces, d'essayer de trouver pourquoi ils pourraient perdre. Parce qu'en effet, cet effectif, il a l'air tellement complet, sur quoi on peut mettre le doigt si on veut dire, voilà, ça pourrait leur faire beaucoup de mal.
Parce qu'ils vont jouer Atlanta deux fois par an.
en dehors de leur crainte de Dan Quinn.
Non, blague à part, moi, il y a quand même un point où je reste toujours un petit peu inquiet. Mais encore une fois, tout est relatif, hein, tu le disais bien. C'est peut-être le poste de corner. Ils ont un top corner avec Marshon Lattimore, qui a quand même pas mal rebondi, je trouve, la saison passée. Après une petite période de flottement. Après, il y a toujours ce cornerback numéro 2. Ils ont fait venir Janoris Jenkins, qui apporte un petit peu d'intensité, on dira, sur la position, mais qui n'est pas toujours rassurant, je trouve, en couverture. Et derrière, bon, des Patrick Robinson, des PJ Williams, c'est intéressant. PJ Williams, surtout dans le slot. Mais voilà, c'est capable également de concéder des big plays. Donc, c'est plus le domaine qui m'inquiète prioritairement du côté de New Orleans.
Raphaël.
Ouais, c'est effectivement ce que j'allais dire aussi, et là où je rejoins Greg, c'est que sur le papier, le ce qui me fait peut-être un peu peur, c'est que sur le papier, le duo Lattimore-Jenkins, en termes de talent pur, c'est peut-être une des meilleures paires de la ligue, parce que on l'a vu, Jenkins sait faire de très bonnes choses, Lattimore a aussi été excellent à plusieurs moments. Par contre, c'est quand même deux joueurs qui, malgré tout, ont des trous d'air toutes les saisons, Jenkins notamment, il n'est pas connu quand même pour sa régularité et voilà. Donc effectivement, dans un mauvais jour, c'est un duo qui peut te faire passer à côté d'un match, surtout dans une division où ils vont rencontrer des escouades de receveurs assez costauds.
Ça. Ils vont quand même jouer Bridgewater deux fois par an, quoi. Je veux dire.
Donc bon, ouais, je rejoindrai Greg là-dessus. Ça peut être un des petits points faibles à un moment dans la campagne de play-off qui s'annonce à peu près une certitude, par contre.
Ah oui, certitude, tu vas loin. Bon, oui, non, mais c'est vrai que... Ah,
franchement, si eux vont pas en play-off, je serai quand même...
C'est vrai que ça fait partie des rares équipes où on peut parler quasiment maintenant de... En tout cas, on a bien plus confiance. Bon, je suis obligé de le mettre sur la table, Drew Brees à 40 ans. Je vais pas dire que Cameron Jordan a 31 ans et que Malcolm Jenkins ont 33 ans, parce que maintenant, ça m'embête un peu de dire que ces joueurs-là sont vieux, maintenant que je suis plus vieux que ça, tu vois. Mais Drew Brees à 40 piges, est-ce que c'est une inquiétude ou pas? L'an dernier, il a 27 touchdowns, 4 interceptions en 11 matchs. Il rate des matchs, ce qui est quand même assez rare pour lui. Est-ce que ça pourrait à un moment poser problème? Je sais qu'il y avait eu une période, à un moment, où on disait qu'il semblait un peu moins véloce au niveau du ballon, mais c'est toujours quand même plutôt bien placé. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça, mais est-ce que ça inquiète un de vous deux?
Bah, l'avantage qu'il a, c'est qu'il compose quand même avec un des top receveurs de la ligue, avec un Michael Thomas qui continue de progresser, qui, même quand les lancers ne sont pas extraordinaires, sont capables d'aller remporter des duels un petit peu contestés. Donc, c'est quand même sa force. Et puis, avec Thomas et Sanders, il a quand même la possibilité d'avoir des joueurs capables de se démarquer sur le domaine profond. Et en effet, ce qui peut être un petit peu imputable à Brise avec en effet cet âge désormais avancé, je cherchais de manière classe de le dire. Voilà, c'est peut-être en effet un bras qui est peut-être un peu moins canon par rapport forcément au standard qu'on avait connu. Maintenant, peut-être une petite tendance à lancer un peu moins rapidement que les standards qu'on pouvait connaître de lui. Après, très franchement, voilà, il a quand même un casting autour de lui qui peut gommer efficacement ces données-là. Il a toujours un running back qui est capable d'être extrêmement dangereux en sortie de backfield, même si je trouve que pour la responsabilité de running back numéro 1 l'année passée, ça a été un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait espérer, en tout cas d'un point de vue touchdown. Maintenant, voilà, il a quand même des pièces très... Enfin, il a quand même beaucoup de pièces autour de lui pour permettre de pas être trop exposé, si je peux parler ainsi, même si je pense que, ouais, à 40 ans, il continuera d'être l'un des quarterbacks les plus dominants de la ligue.
Juste, football fiction une seconde, il se blesse, Jameis Winston rentre sur le terrain.
Non, c'est Taysom Hill.
Tu crois que c'est lui le numéro 2?
Je sais pas, ils lui ont pas donné 14 millions sur 2 ans.
C'est vrai. En tout cas, sur la depth chart, il est officiellement numéro 2 devant Jameis Winston, en effet.
Moi, j'y crois pas du tout. Moi, personnellement, je mets Winston à la place de Hill tous les jours. Mais
clairement, ouais.
Je sais pas, il y a un flou.
Et donc, dans ce cas-là, Jameis Winston rentre sur le terrain, il fait gagner le Super Bowl aux Saints.
Non, mais alors, tu sais, je baguette tout à l'heure, mais encore une fois, on a vu que sans Brise, avec Bridgewater, ils ont perdu un match. Ouais, ça continue de tourner avec forcément une attaque aérienne. Mis à part peut-être le match justement contre Tampa où Bridgewater fait une rencontre énorme, voilà, le jeu aérien qui était moins clinquant forcément, mais sinon je veux dire ça continue à tourner. Donc Winston, qui est pas un mauvais quarterback fondamentalement, même s'il avait tendance forcément à commettre beaucoup trop d'erreurs, je sais pas si à New Orleans il fera forcément tâche, hein.
Après, le truc, c'est que Winston, c'est quand même... S'il y a plus opposé à Bridgewater que Winston, je sais pas c'est qui, mais on n'est pas loin. Hein, parce que Winston, on va lui dire, t'as Michael Thomas, il va dire, pas de souci, je gère. Il va lancer dans tous les sens. Et l'autre, il a beau être agressif sur les duels, à mon avis, il va passer du temps à ramer. Hein. Bon, en tout cas, ça fait partie... Mine de rien, c'est quand même un remplaçant plus qu'honnête, avec de l'expérience. Et on sait que... Déjà en NFL, c'est important pour les remplaçants, et deuxièmement, en cette période avec d'éventuels contrôles Covid positifs, etc., ça peut servir. Donc ils ont ça, ils ont Taysom Hill. On l'a dit, le jeu au sol était 16e l'an dernier. Il y a une ligne offensive qui est bonne, donc l'attaque a priori sera excellente. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas à New Orleans depuis l'arrivée de Drew Brees, mais maintenant leur défense est aussi une grande force de cette équipe. Greg, on a Cam Jordan à 15 sacs et demi, il y a un Demario Davis qui a explosé au milieu de la défense l'an dernier, et en plus ils rajoutent même Malcolm Jenkins pour équilibrer un peu leur groupe de safety.
Oui, non, c'est sûr. Après, il y a une perte non négligeable. Hein. Bon, je l'avais dit dans le podcast Dallas, mais la perte de Mike Nolan en coach linebacker, je pense que ce sera quand même à surveiller, vu que c'était vraiment une des escouades défensives les plus sûres, je trouve, des Saints ces dernières années. Il y a pas mal de joueurs en plus qui sont dans une année un petit peu décisive avec beaucoup de backers en fin de contrat. notamment les Kiko Alonso, Craig Robertson, etc. Mais c'est vrai que bon, cette défense elle est extrêmement solide. Cameron Jordan, tu le disais, qui restera une des forces de l'équipe. Faut voir quand même ce que va donner à Marcus Davenport, qui n'a pas encore confirmé vraiment son statut de premier tour. Mais après, voilà, il y a quand même pas mal de joueurs intéressants sur la rotation. Sur le poste de defensive tackle, il n'y a pas de star absolue, mais ça a très très bien tourné l'année passée. Donc non, très franchement, c'est une équipe ouais, où il y a quand même peu de points faibles en défense. C'est pas aussi impressionnant et glamour qu'en attaque, malgré les noms que tu as cités. Mais en tout cas, ça devrait faire le boulot pour permettre aux Saints de gagner les matchs qu'ils doivent gagner.
Raphaël, pareil, rassuré par cette défense. Ils sont quatrième contre la course l'an dernier. Tu le disais, il y a quand même du talent à l'arrière. Il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas dire il y a tout, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses.
Oui, non, mais on l'a déjà dit, hein, globalement, c'est pas une défense qui m'inquiète outre mesure. Peut-être qu'il lui manque de temps en temps un peu de, et encore, j'allais dire, de playmaker vraiment côté turnover de la chose, mais c'est même pas flagrant non plus, hein. C'est vraiment si on veut chipoter, on va dire. Non, non, c'est une équipe costaud, bah, pas grand chose.
C'est un peu comme les équipes très mauvaises, les équipes très bonnes, des fois, au final, il y a moins de choses à dire. Hein. C'est tellement fort. On rappelle en plus en playoff, ils sortent sur le miracle des Vikings, ensuite sur la passe déviée des Rams, interférence par interférence. L'année dernière, il y a eu une catastrophe particulière, je me souviens plus.
Non, il passe à côté globalement.
Passe à
Enfin,
côté, voilà.
ouais.
Mais bon, c'est une équipe qui est tous les ans en playoff. Il y a un moment où, en effet, ça pourrait passer. Le facteur X, Grégory, du coup, c'était toi qui avais la main sur cette preview.
Facteur X.
C'est dur aussi hein, dans ces équipes.
Ouais, c'est compliqué, mais bah écoute, non, mais je restais sur ce que je disais tout à l'heure, le jeu au sol. Le jeu au sol avec encore une fois un Alvin Kamara qui est en fin de contrat à l'issue de cette saison, qui va jouer gros. Ouais, donc on va voir un petit peu le rendement de ce qu'il peut apporter, même si il peut s'exprimer de par différents biais, donc forcément tout sera relativisé, mais voilà, faut vraiment une vraie, vraie menace au sol pour mettre justement un petit peu moins de pression sur Drew Brees et rendre vraiment cette attaque, enfin continuer en tout cas de rendre cette attaque inarrêtable selon moi.
Raphaël.
C'est difficilement tangible, mais j'aurais presque envie de dire le mental. C'est une équipe qui est armée pour aller au bout depuis 4 ans maintenant, qui depuis 3 ans se plante en playoff. Alors arbitre par arbitre, chacun se fait son avis, miracle pas miracle, mais je me méfie toujours un peu des équipes qui ont tendance à invoquer le destin, le sort, la malchance pour expliquer leur défaite. Et ce cercle-là de on n'y arrive pas en playoff, faut aller chercher la bague pour Brise à tout prix. Enfin, je trouve qu'il y a un truc un peu mental à peut-être passer pour justement réussir en playoff. Et est-ce qu'ils en sont capables? Oui, sans doute. Mais attention au blocage psychologique. Surtout côté Brise, la quête ultime, finir sur une bague. Attention à pas se. Je sais pas, il y a un petit truc pas facilement.
Après, il y a toujours une certaine mystique autour de cette équipe parce que l'année de leur premier titre, il y avait toute cette mystique renaître après
Ouais,
Katrina,
exactement.
etc.
Ouais,
Donc,
c'est vrai.
ils aiment bien jouer sur l'émotionnel. Greg, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, juste par rapport à ça, alors c'est vrai que ce qui est aussi un petit peu piégeux, c'est que les Saints, ils peuvent faire partie de ces équipes qui vont peut-être très bien démarrer, se mettre rapidement à l'abri et se retrouver dans un mois de décembre où je dirais pas qu'ils sont en roue libre, mais en tout cas, oui, il peut y avoir justement cette certaine relâche avant les playoffs qui justement peut être également un petit peu préjudiciable. Alors je sais pas si c'est vraiment ça qu'avait joué l'année dernière contre les Vikings, mais voilà, il y avait eu
Peut-être.
alors que paradoxalement ils ont joué par exemple les Niners dans un gros match au
Oui,
Superdome.
on va voir que le calendrier de décembre est plutôt
Oui,
corsé, hein,
il
de
est
toute
sympa
façon.
aussi, ouais. Donc ce sera à surveiller, je pense, sur la durée.
Pour mon facteur X, comme Greg a pris un excellent facteur X avec le jeu au sol, moi je vais en prendre un peu plus bizarre, mais je vais dire Jameis Winston, parce que vous savez, on est en 2020, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Il y a forcément un moment où Drew Brees va tomber, et là, Jameis va s'élever sur le terrain. Et je pense qu'en février 2021, quand Jameis Winston aura le sourire avec un crabe dans la main, le trophée Lombardi dans l'autre, comme ça, en train de le brandir devant la foule, probablement absente du stade, parce qu'on ne sait pas où on en sera à ce moment-là, je pense qu'à ce moment-là, on dira, ah ouais, 2020, c'était ouf, mais 2021, ça commence encore plus fort. Donc je pense que Jameis Winston est vraiment le facteur X pour faire passer le monde dans une dimension encore supérieure à ce qu'on est en train de vivre. Et je pense que le premier titre de Jameis Winston est forcément pour maintenant. Ça peut pas être autrement. C'est écrit, vous l'aurez entendu ici en premier. Et évidemment, détruisez cette émission si ça ne se passe pas. Mais c'est toujours comme ça, c'est le jeu. Messieurs, les pronostics, donc on parlait du calendrier difficile au mois de décembre. il sera difficile au début aussi parce que ça commence avec la réception des Buccaneers de Tom Brady, déplacement ensuite à Las Vegas, réception des Packers, déplacement à Détroit, réception des Chargers, semaine de repos, réception des Panthers, déplacement à Chicago, déplacement à Tampa, réception des 49ers puis des Falcons, déplacement à Denver puis Atlanta puis Philadelphie, réception. Alors voilà, le Philadelphie, il commence le mois de décembre dont on parlait, avec ensuite réception des Chiefs, réception des Vikings et déplacement évidemment chez le terrible Teddy Bridgewater et les Carolina Panthers. Donc ils vont avoir une belle rampe de lancement pour les playoffs, en tout cas avec le Philadelphie Kansas City Minnesota.
Oui.
Ils sont favoris de quasiment tous ces matchs. Je parle de tous les matchs de leur calendrier.
Sur tous les matchs, je sais pas.
On va dire pour les parieurs, je suppose, hein, grosso modo. Tu vois.
Après, je pense qu'ils sont rarement, en tout cas, perdants. Ils sont rarement en dessous des 40-45% de chances de l'emporter. Voilà. Enfin...
Je pense que si tu attends une cote des Saints à 6 sur le site de Paris, je pense que tu peux attendre. Mais après, en fonction des circonstances, bien sûr. Mais ouais, non. Bon, on peut remonter sur un 13-3. J'y suis allé sur un 12-4, perso.
Moi, j'étais à 12
aussi.
Un peu
aussi, la sécurité.
Ouais, ouais, pareil, 12.
Bon, ben voilà, on est plutôt sécuritaire, mais 12 pour tout le monde. C'est comme ça que se termine cette preview des New Orleans Saints. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur TD Actu avec tous les transferts, toutes les dates, etc. Enfin, tout le planning. Voilà. Cette émission vous était présentée par Brooklyn Fizz, épicerie américaine. Épicerie qui propose aussi des produits NFL, notamment des casquettes, des Funko Pop et plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est sur Brooklyn Fizz avec 2z.fr et une boutique à Lyon, bien sûr. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Grégory. Pour nous suivre, Twitter et Facebook @TDActu, Instagram @TheJournalActu en entier, toutes les plateformes de podcast. C'est vrai que je le dis pas assez souvent, mais n'hésitez pas, notamment sur Apple Podcast, à laisser des étoiles, à laisser des commentaires et tout ça, ça aide le site et le podcast à remonter dans les résultats de recherche. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur TDActu.com. On vous dit à demain pour une nouvelle preview. Ciao ciao. Hey Gates, you are a savior.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.